à tous et bienvenue dans l'émission L'économie en VO, notre débat économique sur la web TV, la bourse et la vie.com. Cette semaine, on va débattre bien sûr à nouveau d'économie avec le sujet sur, concernant la mondialisation. On en parle beaucoup après notamment ce qui s'est passé cet été sur les marchés financiers. Comment retrouver, comment la France peut-elle retrouver de la compétitivité autrement que par des mesures classiques et peut-être profiter aussi plus de cette mondialisation puisque la croissance est là, mais pas forcément en Europe, pas forcément aux États-Unis. On va en parler avec nos trois invités aujourd'hui. Bertrand Collomb, qui est le président d'honneur de Lafarge. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. François Hainaut, qui est le PDG du groupe Steria. Bonjour.
Bonjour.
Et puis François Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant international. Alors, vous voyagez beaucoup, comme sans doute nos PDG qui sont là aujourd'hui. On va peut-être commencer avec vous, puisque cette mondialisation, elle ne date pas d'hier, mais on a l'impression qu'on en parle de plus en plus, mais qu'on la découvre aujourd'hui. Je pourrais rappeler récemment des ouvrages qui ont pu être écrits sur ce sujet. Pourquoi on en parle plus aujourd'hui de cette mondialisation? C'est qu'elle fait d'abord peur?
Bon, d'abord, je pense qu'on en a toujours parlé un petit peu d'une certaine façon, mais je pense que le rythme d'accroissement aujourd'hui fait qu'elle impacte beaucoup plus nos modes de vie que c'était par le passé. Aujourd'hui, la plupart des menaces qu'on considérait autrefois comme exogènes, en fait, aujourd'hui sont endogènes. Quand il se passe quelque chose en Chine, ça joue directement sur nos modes de vie. Alors évidemment, c'est devenu un élément de discussion important à l'intérieur de l'opinion, et en particulier depuis la crise de 2008, bien entendu. Voilà, donc je pense que c'est ça le constat. Quand j'avais commencé à travailler sur mon livre, on m'avait dit, avant la crise, on m'avait dit « la mondialisation n'intéressera personne, vous aurez 30 lecteurs ». Voilà l'état d'esprit. Bon, après,
alors
évidemment… –
Vous avez été un peu provocateur, mondialisation sans peur. Aujourd'hui, si on sortait tous les trois du studio, on interrogeait des gens, ils nous diraient « mondialisation, ça fait peur ».
– Voilà, c'est ça, effectivement. Donc moi, je n'ai pas dit mondialisation sans risque, j'ai dit mondialisation sans peur, parce que je pense que nous vivons très bien avec les menaces que nous connaissons depuis longtemps. Quand on sort de chez soi, on est en risque. Quand on a une maladie, on est en risque. Donc on vit très bien avec le risque. Le problème, c'est qu'on vit mal avec le risque qu'on ne connaît pas. Donc je pense qu'il y a un gros effort de pédagogie qui est à faire par rapport au risque de la mondialisation. Et c'est, j'en avais discuté avec Hubert Védrine, d'ailleurs, que j'avais invité dans une conférence d'association HEC, qui disait exactement la même chose. Il y a un énorme effort à faire de pédagogie, je pense, par rapport à ça, pour que simplement les gens comprennent qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, quelles sont les notions, etc. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre.
C'est-à-dire, quelque part, la mondialisation est là, elle s'est installée sans que la plupart des Français, ou en tout cas pas la majorité des Français, s'en soient rendus compte. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a derrière cette mondialisation? Qu'est-ce que ça a changé pour les échanges, pour leur vie quotidienne?
Oui, absolument. Et un autre phénomène qui est particulier, c'est le fait qu'en fait, on n'a pas changé de paradigme. C'est-à-dire qu'on a un système de pensée qui est hérité, je dirais, d'une période stable. Et on essaye aujourd'hui de comprendre les phénomènes nouveaux, mais sans déconstruire les paradigmes. Or, si on n'explique pas qu'est-ce qui a changé dans le fonctionnement du monde et dans nos propres modes de pensée, on essaye d'appliquer des solutions dans un système ancien. Donc, il faut déjà, je dirais, se déshabiller de certaines façons de penser, d'aller s'installer ailleurs, ce que je dis dans le livre, d'un autre côté du champ de course. Et à ce moment-là, on voit d'autres perspectives. Les chefs d'entreprise, d'ailleurs, ont l'habitude de ça, mais la plupart des gens n'ont pas l'habitude. Et puis à ce moment-là, on voit les choses différemment. Et à partir de ça, on peut comprendre.
Il faut quand même, c'est quand même une révolution culturelle. C'est
quelque
chose
d'assez
fort. C'est un changement important.
Oui, tout à fait, à proprement parler. Je pense que le mot est bien choisi, c'est à proprement parler une révolution culturelle. Oui, tout à fait.
Quand on parle de compétitivité, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, de compétitivité de l'Europe. On met souvent ça en comparant justement d'autres zones où la compétitivité est meilleure, entre guillemets, ça se discute. Ça passe d'abord par le facteur humain, ça passe d'abord par les entreprises.
Alors, bien sûr, mais si vous voulez, si on pour recadrer le débat un petit peu, je pourrais essayer de partir de trois réflexions pour expliquer un peu, qui tournent autour de la question du modèle social et de la compétitivité, parce qu'on est au cœur de la question. L'une, c'est une réflexion de Xavier Bertrand, hier, à l'université du MEDEF, sur le campus d'HEC. Il disait deux choses lors de la conférence sur le sujet. Il disait, moi j'explique notre endettement Simplement par le fait qu'au moment où on a commencé à y avoir du dumping social et environnemental d'ailleurs, nous n'avons pas voulu sacrifier notre modèle social qui est constitutif de notre identité et de notre compétitivité d'ailleurs, et que donc on s'est endetté par rapport à ça. Ça, c'est la première chose. Donc il explique l'endettement comme ça. Et il dit, le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas sacrifier notre modèle social parce que sinon on casse notre civilisation. On ne peut pas le financer par la dette parce qu'on en a trop. Et on ne peut pas non plus le financer par les taxes parce qu'on ne veut pas plomber les entreprises. Donc, si on peut le financer ni par les taxes, ni par la dette, ni non plus par la monnaie, comme disait Christian de Boissieu dans une conférence qu'il nous avait faite à IDZI, on a un problème de sous-compétitivité qu'on ne peut pas financer aujourd'hui, qu'on ne peut pas compenser par la baisse de la monnaie parce qu'on est lié à l'euro.
Donc on ne peut plus dévaluer comme
donc
on le faisait.
On ne peut pas dévaluer. Et une autre réflexion, c'est la troisième, que j'ai vue nulle part malheureusement, mais que j'ai écrit dans l'annexe du rapport Boutin que j'ai faite, qui est qu'à mon avis, on a un problème grave de crédibilité, il y a une fracture nord-sud, une fracture de la compétitivité nord-sud, qui est gravissime et dont on ne se rend pas compte. J'étais en Chine l'année dernière pendant mes vacances, les Chinois considéraient les Indiens comme des nullissimes parce qu'ils faisaient 7% de croissance ou 6 ou 7 alors qu'eux faisaient 10, 12. Alors par rapport à ça, comment nous considérons-ils nous qui en faisons deux? Alors ce que je veux dire, c'est qu'on a un problème de crédibilité. Alors si on ne peut pas... Donc, à mon avis, les négociations qui concernent, on parle beaucoup de régulation, mais si on discute avec des interlocuteurs pour lesquels on n'est pas crédible, les régulations, ce n'est pas possible.
Donc, quelque part, il faut retrouver cette croissance.
On ne peut pas réguler, on ne peut pas financer par la dette, on ne peut pas financer par les taxes, et on ne peut pas baisser la monnaie. Comment on fait? Voilà. Donc, on a trois pièges, il n'y a pas beaucoup de solutions. À mon avis, il n'y en a que deux. L'une dont on n'ose pas parler, c'est... celle qui consiste à se protéger. Hein. Donc, dès qu'on parle de protectionnisme, on se bouche le nez, mais je veux dire...
Protéger voilà. En Europe.
Et l'autre, c'est de trouver des nouveaux gisements de productivité. Donc je suis persuadé que la campagne présidentielle va tourner essentiellement autour de cette question. Comment trouver les nouveaux gisements de compétitivité? Et c'est pour ça que je pense que c'est très intéressant d'avoir l'avis des chefs d'entreprise qui, eux, vivent ça au quotidien dans leur environnement.
Alors justement, Bertrand Gaulle, on parlait de l'entreprise. Vous avez d'ailleurs écrit l'année dernière un ouvrage avec Michel Drancourt sur plaidoyer pour l'entreprise. Ça veut dire que si vous avez écrit cet ouvrage, c'est que vous pensiez qu'il y avait un malaise en quelque sorte entre peut-être les Français et l'entreprise, globalement. Cette mondialisation, si on prend le groupe Lafarge, elle a été rapide pour un groupe comme Lafarge et elle a été forte.
Oui, les entreprises, elles vivent dans la mondialisation depuis, disons, au moins 25 ans. Ça a été un mouvement considérable qui a été quand même une source d'opportunités extraordinaires. Et les Français, cette mondialisation, ils s'en rendent bien compte, parce que vous savez quand même, quand ils ont leur téléphone mobile, quand ils ont leur iPad, etc., ils savent bien que tout ça, c'est le résultat d'un énorme mouvement technologique, d'innovation, etc., qui est mondial. Alors, le seul problème, c'est comment on réagit par rapport à ça et est-ce qu'on peut rentrer dans la mondialisation en pensant que on ne va rien changer? Bon, les entreprises, elles ont été obligées de changer beaucoup de choses. Et les Français dans les entreprises, comme les autres, comme les non-Français, ils ont tout à fait été d'accord pour changer. Donc, je pense qu'il n'y a pas... Un conservatisme individuel des Français quand ils sont face à un problème qu'ils comprennent. Alors l'approche que vous évoquez comme étant l'approche de Xavier Bertrand, moi, je la trouve un peu globale. Parce que quand on regarde intellectuellement un problème, très souvent on dit il n'y a pas de solution. Les entreprises ont eu des problèmes de ce type-là. Il fallait à la fois réduire les coûts et puis il fallait augmenter les ressources humaines, augmenter le marketing. Bon, il n'y a pas de solution. Ben si, il y a des solutions, la solution ça s'appelle l'efficacité. Et en fait, je refuse de dire qu'il y a un problème d'abandonner notre modèle social. Nous avons un problème de solidarité et d'efficacité. Bon, nous voulons maintenir de la solidarité. Mais la solidarité, ça peut être efficace ou ça peut être inefficace. Ce dont il faut se débarrasser, c'est les modèles inefficaces de solidarité. Le problème de la compétitivité française, notamment par rapport à l'Allemagne, c'est assez curieux. Finalement, les Français, en moyenne, les Français sont plus riches que les Allemands. Le niveau de vie par le revenu par habitant est légèrement supérieur, d'une même ordre, mais légèrement supérieur. Pourtant, ici, on a l'impression qu'on est pauvre. Quand on traverse le Rhin, on a l'impression qu'on est riche. Pourquoi ? Parce que les frais généraux de la nation sont trop élevés. On sait bien ça. Alors ça veut dire charges sociales, ça veut dire que ce que les gens peuvent, ce dont les gens peuvent disposer pour leur vie est plus faible parce qu'il y a trop de pertes en ligne. Donc c'est ça qui est notre problème.
– L'argument souvent invoqué, en tout cas par ceux qui dirigent l'État, hein, au cours des dernières années, ça a été de dire oui, mais il y a des infrastructures, il y a des services publics, il y a un certain nombre d'éléments que peut-être, par exemple, si on va en Angleterre, il y a une ligne sur le bulletin de salaire, hein, la retenue à la source et la partie sécurité sociale. Il n'y a pas toutes les listes qu'on a aujourd'hui sur les bulletins de salaire, mais il n'y a pas forcément les mêmes services.
– On n'est pas obligé de faire des choses compliquées aussi. Nous avons quand même une tendance à la complexité qui est absolument extraordinaire.
François Hainaut, sur cette évolution, on parlait 25 ans, on n'a pas l'impression qu'on en parle depuis 25 ans, en tout cas de la mondialisation, clairement, dans des débats, c'est encore
Je crois qu'il faut, ça a été dit, mais il faut distinguer la mondialisation telle qu'elle est perçue par les entreprises, qui sont effectivement, je partage complètement ce que disait Bertrand Collin, à savoir qu'effectivement les entreprises sont engagées dans cette mondialisation et dans cette compétition ouverte depuis plusieurs décennies, alors que la perception dont on parle actuellement de la mondialisation par le grand public est beaucoup plus récente, alors que ce même grand public en France bénéficie de la mondialisation depuis bien des années. Vous preniez des exemples, mais quand on achète des t-shirts à 5 euros, c'est bien le fruit de la mondialisation. Tout le monde s'en félicite d'une certaine manière en tant que consommateur. Donc je crois qu'en fait, ce que l'on perçoit actuellement, c'est que jusque-là, on a été les mondialisateurs, et que maintenant, on est peut-être un petit peu, souvent de l'autre côté, on est mondialisé. Et il faut accepter aussi, et c'est difficile souvent d'accepter d'aller de l'autre côté du champ de course, comme vous le disiez, et d'avoir peut-être un rôle un peu différent dans ce... Et on n'est pas toujours, on ne peut pas toujours être les gagnants d'un jeu. C'est un jeu ouvert, et c'est un jeu, effectivement, où chacun joue sa partie. Bon, maintenant, dans les entreprises, c'est vrai qu'il y a eu... Ça a représenté également beaucoup, beaucoup d'efforts. Steria est une entreprise plus jeune que Lafarge, mais l'ouverture à l'international et de manière assez globale s'est faite il y a une dizaine d'années. Et c'est vrai qu'avant, l'épicentre de l'entreprise était très français et tout était raisonné par rapport au travers de la France, au travers du spectre et du mode de pensée français. Il a fallu une vraie transformation culturelle énorme qui ne s'est pas fait en un jour et qui a fait un peu grincer un peu les équipes françaises pour s'adapter à une configuration beaucoup plus ouverte, beaucoup plus avec des règles du jeu un peu différentes, y compris au sein même de l'entreprise. Voilà, je crois que c'est ce que les Français, d'une manière un peu plus globale, sont en train de découvrir, qu'effectivement, la mondialisation, ça oblige à des transformations du mode de pensée. Et puis, je partage complètement cette... je crois qu'il faut... On est victime de nos forces. C'est-à-dire qu'on est tellement... On a un peu des illusions qui est parfois un peu faussées par l'idée qu'on se fait de nos atouts. On a de vrais atouts. Les atouts, c'est on a une démographie qui est la meilleure parmi les pays développés, on a un modèle social qui est extraordinaire, on a un bon système éducatif, on a des organismes de recherche qui sont très réputés, etc.
La démographie, vous la mettriez pas comme la cause du chômage, comme on a entendu cette semaine.
Attendez, c'est la manière, ça dépend. Qu'est-ce qu'on fait de la force on a une force extraordinaire de jeunes, une population active. Potentiellement active, qui est bon. Effectivement, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Donc, je crois qu'on a des atouts, mais le problème, c'est que ces atouts peuvent se transformer en une faiblesse si, lorsqu'on est un peu bercé par ces atouts et qu'on refuse de les regarder tels qu'ils sont et de les faire évoluer. C'est-à-dire
faut une remise en cause peut-être. Bah, plus,
oui, c'est peut-être ça. C'est une remise en cause. Même dans une entreprise, vous avez un avantage compétitif un jour donné. Si vous le travaillez pas en permanence, ça peut devenir rapidement votre talon d'Achille. Donc c'est un peu, il en va de même à l'État, au niveau d'une nation. On a de vrais atouts, c'est vrai. Attention que ça ne soit pas, que ça ne devienne pas des faiblesses, faute de les avoir observées et les avoir fait évoluer comme il faut. Et puis bien sûr, le risque de la... En France, on souffre beaucoup de sophistication. Notre modèle social, effectivement, est extraordinaire, mais qu'est-ce qu'il est compliqué et qu'est-ce qu'il est coûteux. Et du coup, à chaque fois, ça pose la question de l'efficacité de l'argent investi.